Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez souffrir avec moi aujourd'hui? On va essayer d'avoir un bon temps. On a 2h30 ensemble. C'est l'action de grâce, il y a des vacances. All right. Je vais commencer par prier. All right. Prions. Seigneur, merci pour ce privilège qu'on a de communiquer et d'entendre ta parole. Je te prie, Seigneur, que encore une fois aujourd'hui, dimanche après dimanche, tu pourvoies, Seigneur Dieu, à un message qui vient de toi. Seigneur, et on veut s'attendre à toi ce matin. On veut que tu répondes peut-être à des questions. On veut, Seigneur, que tu nous parles personnellement. On veut simplement te remercier aujourd'hui pour ta présence au milieu de nous. Et par cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, de pouvoir marcher librement avec toi, Seigneur. Père, on veut te remercier ce matin de ce que tu nous as justifié, de ce que tu nous as amené dans une rédemption parfaite. Et c'est bon de savoir ce matin, Seigneur, qu'il ne nous manque rien. Il nous manque absolument rien. Que de simplement te faire confiance dans ce que tu fais pour nous. Alors, Père, bénis ce message dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. Alors, le titre du message, c'est... j'ai mis ça comme ça parce qu'on va se promener un peu dans plein de trucs, mais connaître des choses sur Dieu ou connaître Dieu d'une façon personnelle. Et souvent, j'entends, et moi-même, j'ai dit ça, on a servi Jésus-Christ sur un plateau d'argent à nos enfants, et nos enfants se rebellent. Pourquoi? Comment que ma fille, mon garçon, peut agir d'une telle façon? Rendu à l'âge où il commence à prendre des décisions, quand on a fait du mieux qu'on peut, on a fait l'école maison, on a enseigné les Écritures. Et c'est sûr que, d'entrée de jeu, j'aimerais juste vous mentionner que une phrase que j'ai entendue cette semaine, j'ai trouvé ça assez cool, comme assez relaxant. C'est que vous avez mis au monde des menteurs. Vous avez mis au monde des rebelles en partant. Vous avez mis au monde avec une nature déchue. Fait que oui, il y a la part du parent, mais oui, il y a aussi la part de l'enfant qui a cette nature déchue. Et souvent, on pense à comment ça se fait que mon enfant m'a menti, puis là, on prend ça d'une façon personnelle. Comment ça se fait qu'il m'a menti? Comment ça se fait qu'il m'a... Il m'a menti en pleine face, moi! Et j'ai fait ça, moi. J'ai pris un moment donné, tu te dis, c'est comme une police, right? Une police est sur le bord du chemin, puis il est avec son radar, puis là, il te voit passer à 90 dans une zone de 50. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Met son radar, pip, 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 ça part. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il embarque sur sa moto, il court après, il t'arrête. Puis, il dit pas, tu sais, il lance pas son fusil de radar à terre. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Comment ça se fait encore qu'il est venu me faire ça en plein dans ma face? Non, c'est pas ça qu'il fait. Il va simplement aller vers le monsieur calmement. Avec son gros gun sur le bord, qui a toute la majesté d'un policier. Et il va simplement lui donner une contravention, puis c'est la loi, tu t'arrangeras avec le juge. C'est tout. Je pourrais dire qu'une petite phrase ici, c'est très facile de tourner la vie chrétienne, qui normalement est pleine de vie, en un simple cliché. Puis là, je rentre un peu dans souvent la raison pour laquelle nos enfants... puis là, je veux faire vraiment attention parce que c'est vraiment pas condamnateur ce que je dis là, parce que je me parle à moi-même en même temps. Des fois, on transforme cette vie chrétienne qui devrait être pleine de vie, pleine de joie, pleine d'amour, en un simple cliché qui souvent nous laisse sans provision. Souvent, on a déjà dit ça, on a déjà... puis je vais vous donner une petite définition de cliché. Un cliché, c'est une idée préconçue, c'est une présentation déformée, une idée simpliste et rigide qui peut stigmatiser des personnes, donc les mettre dans une boîte. Un cliché, c'est une expression ou une idée qui devient, avec le temps, avide de sens. C'est aussi une phrase ou un mot utilisé souvent qui perd sa vitalité. Un cliché, une phrase qui devient donc sans substance, sans profondeur. C'est comme si deux personnes se rencontrent puis se disent « Hey, salut, comment ça va? » Tu sais, le greeting standard en Amérique du Nord, c'est « Bonjour, comment ça va? » Puis on va dire « Ah oui, ça va bien. Ça va. » C'est standard. C'est comme « Y a-t-il de l'information qui a été communiquée là? » Pas vraiment. « Y a-t-il une profondeur qui a été... » Non, c'est juste « Bonjour, comment ça va? » »« OK, salut, bye-bye. » Mais si on s'arrête puis on commence à dire, comme par exemple, j'ai parlé au père de Maxime ce matin, puis là, il me conte sa situation, qu'est-ce qui se passe présentement. Et là, il me donne des détails. Là, on commence à rentrer dans des choses plus profondes. Quand des fois, j'entends des gens qui me disent, « Oh, ma femme, elle a un cancer. » M. Sainte-Croix, ce matin, qui me disait que son cancer allait très bien. Dans le sens que, pas le cancer qui allait très bien, mais lui allait très bien. Que la chimio faisait vraiment une bonne job, puis que tout s'arrangeait tranquillement. Puis là, on commence à rentrer dans des choses un peu plus profondes. Aucune intimité, souvent, on peut avoir avec les uns et les autres. Aucune profondeur. Juste un bonjour, comment ça va? C'est pour ça que les temps qu'on a ensemble, les temps qu'on arrête, on a eu, il y a deux semaines, le CE et le CA de l'Église, on est allé dans un chalet, puis on a eu vraiment un bon temps, puis on n'avait pas vraiment d'horaire fixe, on avait des choses à parler, oui, mais on avait plutôt le temps d'apprendre à se connaître un peu plus. Puis c'est quand même assez spécial, parce que quand on sort des choses à faire, puis des patentes à faire. Puis c'est drôle, mais cette fin de semaine-là, il y a eu des larmes. C'est comme on a pris, je vais vous le dire, on a pris le samedi soir, puis on a eu l'idée de simplement remercier Pasteur Réal pour son travail. Puis là, moi-même, j'ai un petit mouton dans la gorge, le travail qu'il fait, le temps, les heures, son cœur, sa façon qui travaille, rarement, même jamais, je l'ai vu être frustré, puis, tu sais, être en tabarouette après quelque chose ou après quelque chose, jamais, tu sais, pas ça. Puis, samedi soir, on voulait juste comme le remercier. Puis quand vous le voyez, remerciez-le. J'ai fait ça avec les ados de l'école de la CRN. C'est quand la dernière fois que vous avez remercié votre professeur? C'est quand la dernière fois que vous avez passé à côté de lui puis vous lui avez dit merci? On apprécie le travail que tu fais. On veut sortir du cliché, on veut sortir des choses qui ne sont pas profondes. On veut aller dans quelque chose de plus profond entre nous. On ne veut pas s'ingérer dans la vie privée des gens, mais on veut être un peu plus vulnérable. Dans nos maisons, souvent, on a des idées préconçues de comment qu'on devrait élever nos enfants. On rentre souvent dans des checklists. On est souvent avec nos enfants en train de les faire entrer eux-mêmes dans des clichés. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller à l'église. Puis on met de la pression, puis let's go, il faut y aller. Non, on fait ça, nous autres. Puis là, on met de la pression. Puis là, un moment donné, on se demande pourquoi, à un moment donné, nos enfants sont saturés. Sont saturés, ils n'ont pas de communion, ils savent pas de quoi. Ils savent pas comment souvent, OK, moi je prie, moi je vais méditer la parole, moi je vais être nourri, mais mon enfant, je dis OK, suis-moi là-dedans. Puis rendu à 15, 16, 17 ans, ils sont comme, non, non, père, là tu comprends pas, là. Moi je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas ce que tu dis. Jésus, pour moi, là, c'est juste un mot. Et ça, c'est quand même, ça rentre dans le dash. Quand tu entends ça. Les mots. J'ai fait un voyage une fois avec un monsieur aux États-Unis, un pasteur qui n'arrêtait pas de dire « Hallelujah, gloire à Dieu ». Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Il conduisait son auto, on est parti d'ici de Cartierville, on s'en allait aux États-Unis. Praise the Lord, hallelujah, oh Jésus est bon, hallelujah. Tout est là, OK. Moi, j'étais un jeune croyant dans ce temps-là, c'est-tu ça? Pasteur Jeff, c'est-tu ça comme la vie chrétienne? Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Puis là, tu vois, tu sais, moi je vais souvent aux États-Unis, puis j'adore... pour me divertir, écouter les preachers aux États-Unis. Puis là, c'est, tu sais, « When Jesus is coming down! » Puis là, c'est comme, « Oh! Yes! Praise the Lord! » Puis là, on va dire, « Say Amen! » Puis là, tout le monde va dire, « Amen! » Puis là, c'est comme si on essaie de remplir, quelque chose qui n'est pas. Praise the Lord, hallelujah. C'est tout le temps des praise the Lord. C'est comme Pasteur Réal disait la semaine passée. J'ai trouvé ça tellement bon. Lave-vaisselle. Oh, lave-vaisselle. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ton lave-vaisselle? Why do you praise God? Pourquoi qu'on loue le Seigneur? Parce que ça nous amène dans un truc dans notre tête qui est, à un moment donné, puis j'ai déjà été là moi aussi. Ah, I know it. Ah, j'ai déjà entendu ça. Ah, j'ai déjà vu ça. Puis là, je deviens comme une personne qui I know it all. Moi, je connais tout ça, ces affaires-là. Ah, moi, j'ai vu des divisions. J'ai vu des messages. J'ai entendu tous les messages qui ne peuvent pas exister. Puis là, à un moment donné, on rentre dans cette attitude où ce que je suis saturé d'informations. J'ai reçu tellement d'informations, j'ai vu tellement d'affaires sans avoir une communion, que ça ici, il y a une séparation entre qu'est-ce qu'il a appris et qu'est-ce qu'il vit. Donc, il y a ce genre de séparation entre qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je vis. Ça a eu comme résultat de trouver les choses plus profonde et précieuse, insignifiante. Parce que je suis tellement rendu dans des clichés, je suis tellement rendu dans une patente à faire, je suis tellement rendu dans une checklist. J'ai ma liste à faire, j'ai ma liste à pouvoir, que je dois réaliser devant mes enfants, que je dois réaliser devant mes pères. Mais la profondeur, des fois, elle n'y est plus. C'est pour ça que des fois, quand il faut faire attention avec... Il y a des gens qui sont... Moi, des fois, je suis comme ça, je peux être brisé. Des fois, je pense à quelque chose, puis je peux être brisé. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de profond qui se passe. Il y a quelque chose de profond qui... C'est pas parce que je suis en dépression, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me touche. Tournez avec moi dans Deutéronome 6... Deutéronome 6, dans Matthieu, les pharisiens viennent voir le Seigneur Jésus-Christ, puis ils vont dire, c'est quoi le plus grand des commandements? Et là, dans Deutéronome 6, verset 4, il va dire, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul, seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton Dieu. Et donc, ici, on voit une chose vraiment, vraiment intéressante. Écoute. Quel est le plus grand des commandements? Écoute. Écoute, qu'est-ce que j'ai à dire? Puis là, au verset 7, ça dit, « Tu les inculqueras à tes fils. » Puis là, au verset 11, ça dit que si je rentre dans ces commandements-là, puis si j'écoute et j'aime mon Dieu et j'aime mon prochain, bien, je vais pouvoir rentrer dans ce qu'il m'a promis. Et qu'est-ce qu'il m'a promis? C'est une maison avec tout dedans. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Il va pourvoir à toutes choses. Mais il va dire au verset 12, « Alors prends garde à toi. » Quand tu vas avoir toutes ces choses-là, quand tu vas avoir acquis une certaine prestance, quand tu vas avoir acquis une certaine sécurité financière, quand je vais t'avoir béni, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Alors, prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ça, c'est intéressant. Quand on voit ça ici. Alors, prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel. Et de quoi qu'on oublie l'Éternel? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et quand tes enfants, au verset 20, et quand ton fils va t'interroger, quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances de l'Éternel, notre Dieu, vous a commandé, alors tu le diras à ton fils. Donc, le fils, il ne demande pas, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ces commandements? Alors, tu lui diras quoi? Tu vas lui réciter les 10 commandements? Tu vas lui réciter ta checklist? Non, il est en train de dire une chose fantastique au verset 21. Nous étions serviteurs du Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Et l'Éternel a opéré devant nos yeux des signes et des prodiges grands et accablants sur l'Égypte, sur le Pharaon et sur toute la maison. Et le point crucial, c'est qu'il nous a fait sortir. Et moi, je pense vraiment que on entend tellement la parole, on entend tellement les choses à faire, on entend tellement. Puis on veut marcher avec Dieu, on veut appliquer, on veut. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ici, il est en train de nous dire, est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois? Moi, j'ai une chose fantastique que j'ai découvert aux jeunes, puis les témoignages que j'ai entendus aux jeunes qu'on a fait il y a quelques semaines, c'est que quand les gens rentraient ici, ils sentaient la présence de Dieu. C'est pas le building, c'est que durant la journée, les gens rentraient, puis moi j'étais ici le matin de bonne heure, puis effectivement, il y avait une révérence. Puis c'est pas l'édifice, encore une fois, c'est votre présence, c'est des gens qui priaient. On rentrait comme dans quelque chose. Il y avait quelque chose, c'était pas juste une bâtisse, c'était Dieu était présent au milieu de nous. Vous savez, il y a un gros grosse écart entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le livre de Matthieu est souvent le livre de Matthieu est un livre qui va faire un peu le lien entre vraiment l'Ancien et le Nouveau Testament. Le livre de Matthieu, c'est là où on voit qu'il y a le plus de prophéties par rapport à Jésus-Christ. C'est là où on voit au moins entre 60 et 40 prophéties claires qu'on voit dans le livre de Matthieu. Puis c'est un livre qui fait la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis je pourrais dire que c'est un livre qui va faire la transition entre la parole et la réalité, l'application du Nouveau Testament, le Saint-Esprit maintenant qui va venir habiter en nous. Maintenant, on a cette puissance, acte 1-8, cette puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, maintenant, nous allons pouvoir devenir des témoins parce que le Saint-Esprit, maintenant, est à l'intérieur de nous. Le livre de Matthieu est un livre où un des seuls évangiles où on va parler de l'Église d'une façon assez précise. Le livre de Matthieu est renommé pour son fondement par rapport à justement le pauvre, contrairement à ce que on voit dans le livre de Matthieu par rapport aux pharisiens que le Seigneur Jésus-Christ adresse continuellement. C'est lorsqu'on voit le fameux sermon sur la montagne, « Heureux le pauvre en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont purs de cœur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui seront persécutés. » On voit aussi comment que c'est là qu'on voit comment que les disciples ont été mis en place. On voit aussi, entre autres, comment qu'au chapitre 13 de Matthieu, on voit comment qu'il y a eu ces paraboles qui sont manifestées sur la semence, comment que le Seigneur Jésus-Christ prenait à cœur et voulait qu'on comprenne que sa parole, effectivement, c'est une semence et non pas seulement qu'un cliché. C'est une semence de vie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ établit le fait que la parole est importante. On voit aussi un peu plus loin dans Matthieu 18 comment que le discours de Jésus-Christ nous parle ici de ce qui est grand. Et qu'est-ce qui est grand va prendre soin de qu'est-ce qui est petit. C'est comme si Jésus-Christ est en train de vraiment établir des fondements de cette nouvelle alliance qui vient d'arriver. Matthieu 18, verset 10, « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car, je vous le dis, dans ces lieux, et ainsi de suite. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver, chercher et sauver ce qui est perdu. » Et cinquièmement, on voit comment que le livre de Matthieu est un livre aussi qui va parler du futur dans la fin. Je vous disais comment que le livre de Matthieu nous parle de l'Église. C'est le premier évangile Matthieu a été écrit après le livre de Marc, on voit qu'il a été mis en premier parce qu'on voit qu'il est en train d'établir quelque chose. Comment qu'on fait pour pratiquer cette nouvelle alliance? Comment qu'on fait pour pratiquer cette nouvelle vie? Comment je fais pour pratiquer face et à la lumière de la loi? La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Comment que je fais pour mettre ça en application? Là, on voit dans Matthieu 16, verset 18, comment que je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Première mention de l'Église. Première mention aussi de la discipline dans l'Église. Si ton frère a péché, dans Matthieu 18, 15, reprends-le, puis s'il ne t'écoute pas, bien, à ce moment-là, va chercher un autre témoin. Donc là, on rentre dans vraiment le côté pratico-pratique de la vie chrétienne, où ce que si je vois mon frère qui pêche, bien, à ce moment-là, je dois aller le voir, puis comment ça va? Ça va-tu bien? Je peux-tu t'aider avec quelque chose? On voit aussi l'implantation du jeûne d'une façon plus pratique. On voit aussi la prière. On voit dans Matthieu, encore une fois, dans Matthieu 27, ce côté spécifique du mariage et du divorce, c'est là où on donne aussi l'autorité du baptême. Donc, la parole nous amène à pouvoir faire un lien, à pouvoir faire une transition, à pouvoir marcher sur un pont. Et le Seigneur Jésus-Christ prend vraiment le temps de pouvoir investir dans la vie des gens alentour de lui, puis on le voit à travers tout le livre de Matthieu, comment il va guérir des malades, il va prendre soin des petits, il va prendre soin de ceux qui ont l'air de rien, contrairement aux pharisiens. Les pharisiens, eux, veulent démontrer, veulent montrer dans Matthieu 23. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Mais ils mettent des fardeaux sur des gens. Ils mettent des fardeaux sur les gens, mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter. Puis ils font toute leur œuvre pour être vus des hommes. Ils aiment la première place dans les synagogues. Ils aiment ça être vus de tout le monde. Quand le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois dans Matthieu, nous parle clairement de vivre et de marcher dans le secret. Dans Matthieu 23, verset 11, « Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Dans Matthieu 23, verset 23, ça nous parle aussi de qu'est-ce qui est important. Les pharisiens mettaient l'emphase d'une façon assez intense sur payer sa dîme, faire les choses qu'on doit faire. Mais ils n'ont aucune conscience des gens qui sont alentour d'eux. Tu sais, vraiment, y a-t-il des moments que je peux avoir de la difficulté à payer ma dîme? Et y a-t-il quelqu'un qui va venir me voir et me dire, « Comment ça va? Est-ce que ça va bien? » Tu sais, je pensais aux enfants, tu sais, je pense aux pharisiens qui mettent des fardeaux, puis des fois, on peut être comme ça, on rentre dans des clichés, puis on rentre dans des façons de pouvoir couvrir, dans le fond, notre incompétence de pouvoir aimer quelqu'un. Et donc, on va utiliser des clichés, puis on va rentrer dans le service, on va faire plein de services à l'Église. Mes enfants, moi, qu'est-ce qui m'intéresse pour mes enfants? C'est juste qu'ils viennent à l'Église, puis qu'ils soient des bons chrétiens. Mais vraiment, qu'est-ce qui est un essentiel pour un enfant? Qu'est-ce qui est le besoin premier d'un enfant? Comment? Right! Un amour sécurisant. Un amour sécurisant. Est-ce que je présente mon checklist à mon enfant? Où il se sait aimer sans être performant. Est-ce que dans ma vie, je sens toujours que ce n'est pas assez? Est-ce que dans ma vie, j'ai l'impression que ce n'est jamais assez? J'ai rencontré dernièrement un docteur qui me disait, qui pleurait dans mon bureau, puis qui me disait, c'est jamais assez. J'entends mes parents tout le temps. « Aïe, plus, vas-y, let's go. » Un doctorat, t'es capable d'en chercher un autre. Wow, « Let's go, t'es capable. » Puis je ne sens pas, ils n'ont pas cette fondation de dire « Je suis bien avec moi-même. » Ils ont juste cette fondation de performance, de faire des choses, de rentrer dans la checklist des parents. Puis oui, c'est important que nos enfants fassent leur chambre. Oui, c'est important qu'il y en ait une checklist. Mais c'est encore plus important de les prendre à part et de perdre du temps avec eux. De prendre le temps de s'asseoir puis de juste avoir du bon temps. Juste de jaser. Est-ce que je t'ai dit aujourd'hui que je t'aimais? Est-ce que je t'ai dit aujourd'hui que tu es vraiment spécial? Est-ce que je t'ai dit aujourd'hui que tu es vraiment... Là, je pense à ma fille, parce que lui, il est beau, tu sais, c'est pas besoin de dire. Je dis à ma fille, est-ce que tu sais que tu es vraiment belle? Je t'apprécie vraiment énormément. Est-ce que... des fois, je me dis, qu'est-ce que mes enfants veulent voir en moi? Et puis, des fois, je suis comme ça, puis j'en ai fait des erreurs. J'en ai fait souvent des erreurs, mais qu'est-ce que mes enfants veulent voir? Est-ce que c'est possible que mes enfants veulent voir que je suis peut-être humble, humble dans le sens où ce que des fois j'ai de la misère à marcher avec Dieu, humble dans le sens que ça ne vient pas de moi, ça, de marcher avec lui. Humble, ça veut dire je suis peut-être un insignifiant. Peut-être que j'ai de la difficulté, moi, à marcher avec Dieu. Est-ce que ça se pourrait qu'ils aimeraient peut-être ça, voir ça, pour s'identifier avec moi? Parce que, non, il faut que je leur montre que moi, je marche avec Dieu. Moi, j'aime Dieu. Moi, je lis ma Bible. Moi, je prie. Je sais que vous avez tous entendu ça. Est-ce que c'est possible que mes enfants puissent voir une personne comme eux qui ont de la difficulté à croire puis à comprendre? Je lisais quelque chose d'intéressant dernièrement. C'est un auteur qui parlait de liberté. Qu'est-ce que la liberté? Puis, il nomme trois choses. Qu'est-ce que la liberté en Christ? J'ai adoré ça. La liberté en Christ. Vous emmagasinez la parole et je vais vous rendre libre. Right? Donc, libre de quoi? Puis là, lui, il met trois choses qui sont vraiment intéressantes. Premièrement, libre d'être différent. Est-ce que c'est possible que je ne suis pas pareil comme vous autres? Est-ce que c'est possible que Dieu m'a donné des capacités, m'a donné des façons de faire, m'a donné une réflexion qui n'est peut-être pas la même que vous? Est-ce que c'est possible que Dieu, avant même la fondation du monde, vous ait créé de la façon que vous êtes présentement et que vous êtes différent et que Dieu va vous utiliser dans cette différence-là et qu'on n'a pas besoin de se comparer les uns aux autres? Liberté d'être vulnérable. J'ai la liberté aujourd'hui d'être vulnérable parce que j'ai un focus sur Christ. Mon focus n'est pas sur moi pour démontrer à la planète comment que je suis, que moi j'ai rentré dans toute ma liste de qu'est-ce que ça doit être un bon chrétien. La liberté d'être vulnérable. Travailler votre salut avec crainte et tremblement. Je travaille à ma vie spirituelle avec crainte. Je crains Dieu dans ma vie. Je l'ai évalué à sa juste valeur. Je comprends qu'il est partout à la fois, qu'il est présent, qu'il a toute puissance. Puis avec tremblement, Dieu laisse une incapacité pour moi de toujours avoir besoin de lui dans ma vie. Être vulnérable. J'ai besoin de Dieu, donc j'ai besoin de l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Troisième point, vulnérable, faire des erreurs. Donc, j'ai la liberté d'être différent, d'être vulnérable, et peut-être de faire des erreurs. Est-ce que c'est possible que je vais faire des erreurs? Oh, Claude, là, t'es pas mal négatif, là. Franchement, c'est un peu démoralisant ton affaire. Mais je suis désolé, mais c'est la réalité de ce qu'on vit. Nous sommes tous continuellement face à ça. Donc, je reviens à ce que mes enfants voudraient peut-être voir. Est-ce que c'est possible que mes enfants voudraient voir peut-être un homme reconnaissant? Quel exemple que j'aimerais donner à mes enfants? Quel exemple que j'aimerais donner à mes proches? Est-ce que ce serait possible que cet évangile m'amène à être reconnaissant? Est-ce que c'est possible aussi, quatrièmement, que l'Évangile m'amène à être généreux? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait ça, peut-être, que mes enfants voudraient voir en moi, à place de voir le gars parfait? Quand je pense à 16, 17, 18 ans, est-ce que c'est possible qu'ils voudraient peut-être voir un homme ou une femme qui est serviteur les uns les autres? Qu'est-ce que je manifeste à mes enfants? Est-ce qu'ils savent que je les aime? Est-ce qu'ils savent que je suis en amour avec eux? Donc, un amour sécurisant, je vais apprendre, je veux que mes enfants le sachent, je veux les sécuriser. Comment qu'une femme, face à son mari, la job du mari, c'est de sécuriser l'amour de sa femme, de faire en sorte à ce que sa femme sache, par des actions concrètes, que je l'aime. Deuxième point, un but significatif dans la vie. Qu'est-ce que mes enfants, c'est quoi les essentiels de la vie pour des enfants? Donc, un amour sécurisant, un but significatif. Psaume 139, il y a une raison pourquoi tu es là. Il y a une raison pourquoi tu es ici, tu es précieuse, tu es précieux. Et troisièmement, une espérance certaine dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je pensais à une petite parole, je pense qu'il résume bien tout ça, c'est l'amour, plutôt, excusez, voyons, dans 1 Corinthiens 8, verset 1. La connaissance, ça s'en vient, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, des fois, tu sais, la connaissance enfle, moi, dans ma tête, c'est souvent, c'est l'autre, ça. Non, moi, je suis correct, moi, je suis le paternel de la maison, ça marche de même. Puis, j'ai pas vraiment, moi, mes enfants, ils vont, tu sais, c'est ma maison, ils vont faire ce que je dis, puis that's it. Tu sais, on a donc, on a un peu cette attitude-là, puis je me dis, souvent, je me dis, est-ce que c'est possible que la connaissance m'a enflé et que j'ai arrêté d'être édifiant? J'ai arrêté d'être encourageant? Je me suis posé cette question-là quand un de mes enfants a commencé à être rebelle. Je me suis arrêté, je me suis dit, attends une minute, c'est pas juste à cause de lui, c'est à cause de moi. C'est comment qu'il me perçoit, puis je vous garantis une chose. La journée où j'ai commencé à changer mon fusil d'épaule, c'est qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu. Ça a été un long processus, mais la journée où j'ai changé mon fusil d'épaule, et puis j'ai commencé à édifier, puis à arrêter de regarder selon la loi, puis de condamner continuellement. Parce que quand je dis, écoute, la première chose qu'on fait quand on les voit, nous en, hey, t'as-tu fait ça? T'as-tu lu ta Bible aujourd'hui? Non, pas, je ne l'ai pas faite encore. Fait que là, ils sentent comme rien. C'est comme si moi, je suis, hey, t'as-tu lu ta Bible? Est-ce que je me suis comme mis avec eux à genoux, puis être comme sur la même longueur d'onde? Est-ce que j'ai été humble? Est-ce que j'ai été peut-être vulnérable pour faire une connexion avec mes enfants? Non, il faut toujours que je présente la personne qui, lui, il a vraiment eu l'affaire. Est-ce que la connaissance a enflé puis m'a donné le droit de pouvoir dire, non, marcher avec Dieu, mon petit garçon, c'est comme ça qu'on fait ça. Puis est-ce que j'ai eu... Imaginez-vous, deux minutes, on arrête. Je vais finir ça de même, là, mais... Imaginez-vous si Dieu dealerait avec nous comme ça. Fait juste s'imaginer si Dieu viendrait devant nous avec cette attitude où, Claude, faut que tu remplisses ma checklist. Non, c'est comme Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est, garde, la checklist est là, la loi de Moïse est là. Je décide de t'envoyer mon fils pour que moi, je prenne soin de la checklist. Moi, je prenne soin de la loi de Moïse. Pourquoi? Pour avoir une relation avec moi. Pour me permettre d'être différent. Pour me permettre d'être vulnérable. Pour me permettre d'être libre. pour me permettre peut-être d'avoir des faiblesses. Christ a tout accompli à la croix pour que je puisse avoir la liberté de marcher maintenant avec Dieu. Donc, quand je rentre chez nous, est-ce que j'ai ma checklist, est-ce que j'ai la loi de Moïse qui est là, qui attend mes enfants toujours, ou bien je les reçois les bras grands ouverts? Parce que Hébreux 4, verset 16, « Approchez-vous donc avec assurance. » Comment que quelqu'un peut s'approcher devant le trône de sa grâce avec assurance? Impossible. On l'a chanté tantôt. Si Dieu, tu te rappelais de une seule de mes fautes, qui pourrait vivre? Qui pourrait subsister? Personne. Mais à cause de la grâce, à cause que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par notre Seigneur Jésus-Christ, ce don qui nous a été donné, maintenant, je peux aller au Père, puis je peux parler avec lui dans des temps de besoin. Est-ce que ce ne serait pas pareil pour mes enfants, pour mes amis? De dire, je vais apprendre à être édifiant parce que Christ a pris soin de tout ce qui n'est pas édifiant. Je vais apprendre à pouvoir donner une parole en saison à des gens qui sont fatigués parce que Christ a payé le prix pour ces gens-là. Est-ce que tout est parfait dans leur vie? Non. Je pense que c'est vraiment important de voir ce que Dieu a fait pour nous. On doit apprendre à le faire pour les autres. Et comment je fais pour que ça marche? Bien, je meurs à moi-même. Je meurs, j'apprends à mourir à moi-même et à donner une parole édifiante à place de dire, « Ah non, moi je la connais, cette personne-là, elle ne mérite pas ça, puis elle ne mérite pas ça, puis elle ne mérite pas ça. » Dans une église, ça ne marche pas comme ça. Dans une église, on doit apprendre les uns les autres de se recevoir à place de donner et de communiquer des fardeaux comme les pharisiens peuvent le faire. On va apprendre à s'enlever des fardeaux, à s'encourager, à pointer Christ. Et ce ne serait pas la même chose avec nos enfants. Que le plus grand parmi vous est le serviteur de tous. Est-ce qu'il y a une place peut-être que je devrais peut-être servir mes enfants? N'importe quand, n'importe où, la porte est ouverte. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Si c'est possible, je vais t'aider. Sinon, ben, je suis limité, je suis désolé. Donc, mais je pense à un verset qui m'a vraiment saisi dernièrement, c'est ça, c'est que la connaissance enfle, mais l'amour va édifier, va encourager. Ne regardera pas qu'est-ce qui manque, mais elle va regarder tout simplement à Christ. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Dieu nous a tant aimés, pas quand la checklist était pleine, pas quand j'ai accompli que je pense que d'avoir accompli toute la loi. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Pour que si je fais juste croire en lui, il va me donner la vie éternelle qui est maintenant. Alors, prions. Seigneur, merci pour ce court message. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses continuer à nous apprendre à voir l'amour, Seigneur, que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Et apprends-nous, Seigneur, à approfondir cette relation avec toi. Apprends-nous maintenant à manifester aussi cet amour envers les autres, envers nos propres enfants. Et Seigneur, donne-nous la sagesse et le discernement de pouvoir discerner les fardeaux. Apprends-nous, Seigneur, à juste s'aimer les uns les autres, Seigneur. Apprends-nous à simplement voir, être concerné par les autres. Parce que toi, tu es concerné par nous, Seigneur. Seigneur, on veut te remercier ce matin de ce que tu es mort à la croix pour nos fautes, pour une communion intime avec toi, Seigneur, pour une intimité, Seigneur. Père, merci. Et oui, Seigneur, on veut te prier encore une fois pour Maxime. Ah, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, d'être avec lui maintenant. Merci, Seigneur. Merci de bénir ce dimanche. Merci. C'est une action de grâce. C'est un temps qu'on se rappelle, Seigneur, que on veut être reconnaissant, mais on veut être reconnaissant à tous les dimanches. On veut être reconnaissant à tous les jours de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. Alors, je demanderai à Michel de venir. Il va nous entretenir deux petites minutes sur Haïti.
Alors, comme vous savez tous, à différents niveaux probablement, l'ouragan Matthew a passé directement au-dessus du village. Et puis, en fait, en haut de la côte, pour être plus précis, pour ceux qui connaissent la place, à Port-au-Piment. Ça fait que c'est pas très loin. C'était le plus gros ouragan à frapper le sud d'Haïti en 50 ans. Et puis, peut-être, Étienne, si tu pouvais juste passer la petite vidéo. En as-tu réussi à la downloader? Non? Ah, OK. Fait que ça montre un peu qu'est-ce que Geneviève Blain voyait de la fenêtre dans notre bâtisse où elle voyait. Fait qu'on peut peut-être baisser les lumières un peu, mais on voit déjà l'ampleur, la destruction avait déjà frappé. Peut-être montrer les autres images. Ça, c'est nos terres à l'arrière. Ça regarde vers le côté de la mission, là, quand on est sur le dessus. Là. Fait que la rivière a débordé. Mais on parle de vents de 240 km à l'heure. Fait que des vents de cette ampleur-là, ça arrache littéralement tout. Ça, c'est notre terrain. Fait qu'on voit que quand les pluies ont eu cessé, quand l'ouragan a eu passé, mais là, les pluies ont continué à tomber. Puis la rivière Lacule, qui passe juste à côté du village, elle ramasse l'eau qui descend des montagnes. Ça descend de très loin. Fait qu'on s'imagine la vitesse à laquelle l'eau a descendu. Et là, elle rencontre la mer qui, elle, souffle. Fait que ça fait une collision qui fait que la rivière, quand on y va, elle est à peu près qu'elle arrive 4 pieds plus haut que la rivière. Et puis l'eau a monté de 4 pieds au-dessus de la rive. Fait que c'est 8 pieds de haut qui a monté. Ça a couvert tout le terrain, ça a couvert toute la propriété, tout le village au complet. Le devant du village qui donne sur la mer est littéralement détruit. Toute la végétation est détruite, il n'y a plus rien. C'était un petit paradis, il y avait des bananiers, des manguiers, il y avait des cocotiers, il y avait un fruit qui s'appelle le véritable, qui les habitants pouvaient se nourrir à même directement ces végétaux. Et puis, tout a été détruit complètement. L'image que vous voyez là, les arbres au-dessus des maisons, là, c'était des beaux arbres, c'était des grands arbres. Alors, vous voyez comment ça a été détruit. On a réussi à mettre à peu près 350 personnes dans la propriété pour les mettre à l'abri. Fait que donc, il n'y a pas de cas de mort ou de blessés graves. Mais les gens, il reste 27 maisons intactes sur à peu près 400. Fait que c'est un village de 1400 habitants. On parle d'à peu près entre 400 et 500 enfants. Fait que donc, littéralement, il reste plus rien. Là, ça va devenir, ça c'est la maison de la tante à Vénel, je pense. Fait que vous pouvez voir, là, il n'y a rien à l'horizon, là. C'est comme plat. Donc ça va aussi causer des problèmes dans le futur, parce que nous autres, on se réjouissait qu'on n'avait pas de problème de déforestation. Mais là, voilà. On est là, tu sais. Fait que donc, la famille Odena, qui est présente sur place, le docteur Stéphane est là avec son épouse, ses 4 enfants. Et, je vais dire, par bénédiction, il y avait la famille Saint-Laurent qui était là, qui était partie en vacances. Si on dit qu'elle est en vacances, ça forme la jeunesse. Ils vont avoir vécu toute une expérience, mais une chance qui était là, parce que ça leur a permis de s'appuyer, de se supporter. Pendant que l'orage frappait, en plein cœur de la nuit, le doc Stéphane puis Benjamin sont partis accoucher une dame, okay, en plein dans l'orage. Ça a été possible parce qu'on a eu le véhicule, on a un nouveau véhicule là-bas. C'était un immense 4x4, là, tu sais, là, une grosse patente pour la brousse. Fait que ça leur a permis de partir puis d'aller accoucher la dame, puis ça s'est bien passé. Et puis, c'est ça. Là, ils ont réussi, dans les besoins qui s'en viennent, ils ont réussi à nettoyer la clinique au complet, parce que là, il y avait de la boue sur le plancher de la clinique. Fait que là, ils ont réussi à nettoyer la clinique, la rendre opérationnelle, et là, demain, ils rouvrent la clinique, parce que c'est certain que là, les gens vont commencer à arriver. La présence de la boue fait que tu ne peux pas te promener partout dans le village. Il faut, ça te prend absolument des bottes pour marcher. C'est certain qu'avant de pouvoir penser à ressemer puis à planter des choses, il va falloir encore que le soleil, là, c'est la période du soleil va s'en aller bientôt. Fait que là, ça va sécher, puis bon, on va pouvoir commencer à travailler des choses. Mais il y a des débris absolument partout. Donc, il faut les enlever, ces débris-là, il faut nettoyer. Les poteaux électriques sont tombés. Fait que là, une chance que notre génératrice était dans un bunker en béton. Elle est encore opérationnelle, mais toutes les ampoules ont éclaté. Tu t'imagines quand toutes les ampoules qui sont exposées au dehors, un vent de 240 km, c'est une ampoule. Les fenêtres comme ça, il y en a plusieurs qui ont explosé, juste sur l'impact, même s'ils les avaient gardées ouvertes pour pas que... qui résistent au vent, ils ont quand même... Donc, dans le moment, les besoins dans le village, ça va être des besoins très de base. On a besoin de... Là, dans le moment, il y a de la nourriture qui a été sécurisée pour un certain temps. Il y a des poches de riz qui ont été laissées par la mission américaine. Et puis, donc, il y a quand même de la nourriture qui a pu être sécurisée. Il y avait une route qui séparait, la route nationale qui unit le pays, le sud et la capitale. Il y a un gros pont qui a disparu dans la rivière. Ils ont réussi, parce que l'eau a diminué, ils ont réussi à remplir la rivière avec de la roche puis du gravier. Donc, ils ont réussi à rétablir la ligne. Donc, ils sont capables, il y a déjà des choses qui se promènent. Il y a de l'aide internationale qui s'organise pour pouvoir aller dans le sud du pays. Parce que vous vous rappelez qu'en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre, c'est surtout la capitale qui avait été frappée. Fait que là, c'est le sud qui a été frappé. Fait que puis ça a laissé des dommages qui étaient pires que le tremblement de terre, parce que là, l'eau, la pluie, le vent, à date, on est rendu à presque 1000 morts en Haïti, puis 350 000 déplacés, surtout dans le sud. La ville de Jérémy est détruite à 80 %. Fait que là, les besoins, ça va être vraiment de ramasser des fonds pour qu'on puisse transférer de l'argent en Haïti, pour sécuriser des choses comme trouver du propane pour faire à manger aux gens qui sont là, commencer à aider les gens à reconstruire, parce que les gens retournent sur le lieu de leur maison, puis là, vont essayer de rebâtir, de se refaire quelque chose. J'ai lu un commentaire ce matin de quelqu'un qui est en Haïti qui disait, écoute, ça a frappé, mais avant que ça frappe, les gens... étaient comme résignés parce qu'en Haïti, c'est une crise après l'autre. Fait qu'ils sont devenus comme habitués à gérer les crises. Puis Geneviève, elle écrivait comment est-ce que c'était impressionnant de voir comment les gens, tu sais, ça frappe, mais ils sont tough, ils sont, tu sais, puis l'attitude est bonne, tu sais, c'est impressionnant, tu sais. Fait que donc, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant que mission, bien, c'est les aider, mais il faut faire ça de façon structurée. T'sais. Il y a la clinique qu'il faut remettre en ordre. Une chance, le container qui s'en va. Il y avait 3 gros barils de médicaments. Fait que ça va aider. Il y avait certains matériaux de construction, mais là, il va falloir se poser des questions, à savoir, est-ce qu'on renvoie un deuxième container? Si on renvoie des choses, qu'est-ce qu'on renvoie? On envoie-tu de la tôle pour rebâtir des toits? Parce que ça, c'est commencer à coûter très cher. Il va y avoir une rareté, c'est sûr, du bois, etc. Fait que donc, tout ça pour dire qu'il faut qu'on se mette ensemble, puis qu'on se rappelle que Tiverny, c'est pas séparé de la Bible parle. C'est pas quelque chose, tu sais, c'est certain qu'on en parle souvent de la mission, on va en mission, puis, mais c'est nous, ça. Tu sais, ça fait 17 ans qu'on est là. Puis, on trouvait que ça commençait à aller quand même pas pire, tu sais, on avait des choses de fait, puis tout ça, mais là, dans la souveraineté de Dieu, Dieu nous donne comme une autre mission. C'est comme si on recommençait, on repartait quelque chose. Sauf que, par la grâce de Dieu, on a quand même des infrastructures qui vont nous permettre d'y aller. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une offrande. Il y a une vidéo qui a été faite qui explique un peu la situation pour ceux qui vont sur le site de Facebook des missions, La Bible parle. Mais ce matin, on va faire une levée de fonds. Il y a une levée de fonds qui va être faite dans toutes les églises La Bible parle ce matin. Et on a aussi des gens de l'extérieur qui ont commencé à envoyer des dons. Et là, on peut transférer de l'argent directement pour que le docteur Stéphane puisse prendre de l'argent et l'affairer aux besoins les plus immédiats. Là. Fait que ça, c'est l'argent qui est donné va se rendre très rapidement. Mais il y a aussi des efforts qui vont être faits à plus long terme. Fait qu'on va être en discussion avec différents organismes. On va parler à tout le monde qui potentiellement peut nous donner de l'aide. J'ai même eu une petite jasette avec M. Gélina ce matin pour voir si l'armée canadienne ne pouvait pas nous aider. Fait que, on va parler à n'importe qui peut nous aider. Fait que, c'est bon d'avoir des contacts. Alors, on va prier ce matin. Il va y avoir des détails qui vont revenir parce que vous comprendrez, on n'a pas eu encore beaucoup de photos. FSME, Edel a parlé à FSME. FSME a fait le tour et a pris des photos. Fait que là, au moins, on va avoir vraiment un bon portrait de l'ampleur de la chose. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on prie. Les portiers vont s'installer. Est-ce que vous voulez qu'on circule les paniers ou vous aimez mieux à la porte? À la porte, ça va être parfait. OK. Excellent. Ils vont être là à la porte. Et puis, on va prier pour que le Seigneur nous guide, protège les gens, nous donne une sagesse. On va se lever. Seigneur, mon Dieu, c'est un petit peu, on ne sait pas trop comment te prier pour cette situation, Seigneur, de façon précise. C'est certain, on est complètement renversé de voir que un des pays les plus pauvres de la planète, qui a déjà subi un tremblement de terre terrible, peut subir un ouragan d'une force telle, c'est un peu difficile à comprendre. Il y a une chose qui est certaine, Seigneur, c'est que tu es souverain sur absolument toute chose. Et que, Seigneur, il y a un plan, il y a une vision, Seigneur, et puis nous, on veut tout simplement rentrer dans les œuvres que tu as de préparer d'avance, que ça soit facile ou que ça se le soit un peu moins. Dans le cas présent, Seigneur, nos cœurs vont vers les gens de ce village. On te prie de les garder, de les soutenir, Seigneur, que ta parole qu'ils ont entendue puisse revenir à leurs oreilles et puis leur donner un réconfort. On te prie pour les gens qui sont là-bas, nos missionnaires qui sont là, la famille Odena, la famille Saint-Laurent. On te demande vraiment de les bénir, de les supporter, de leur montrer des signes d'encouragement. Quoi que ça vienne de la part des gens du village, qui puissent entendre des choses qui vont vraiment les encourager et puis les guider dans l'action qu'ils ont à poser là-bas. On te demande de leur accorder une sagesse. Le doc Stéphane démontre vraiment un leadership absolument exceptionnel dans ces conditions-là. Il a vraiment été l'homme de la situation et puis il rassure les villageois, il les organise, il les structure, il les encourage. Fait que merci pour qui il est, Seigneur, et puis merci de le bénir, lui et sa famille. Seigneur, je te demande aussi de nous accorder de la sagesse dans la façon dont on va aider. Parce que c'est facile de dire qu'on va aider, mais bien aider, tu le sais comment c'est difficile. Fait qu'il faut vraiment que tu nous donnes un sens de collaboration, de coopération. Un sens, Seigneur, de donner parce que Tivernis, c'est nous, c'est pas séparé de nous. C'est une extension de qui on est, Seigneur. C'est comme l'école du dimanche ici. C'est la même chose. C'est un autre ministère que tu nous as accordé. Et parce que tu nous l'as accordé, Seigneur, on t'implore de nous aider à bien aider, à bien structurer, à bien gérer les choses. Alors, merci, Seigneur, de bénir ces efforts qu'on fait pour lever des fonds, de toucher les cœurs. Et, Seigneur, je rappelle aussi que ceux qui ont déjà été en Haïti, ceux qui ont pensé aller en Haïti, mais qui n'y ont jamais été, peut-être que c'est les circonstances qui vont vous toucher. Peut-être que ça vous dit en dedans de vous, parce qu'on va avoir besoin des bras, Seigneur. Il y a tellement de choses à faire. Et on va avoir besoin de beaucoup d'aide. Alors, merci d'inspirer des gens, de nous appuyer pour aider à reconstruire le village. Et merci de ce que tu vas faire, parce qu'on s'attend à toi en toutes choses, Seigneur. Dans le précieux nom de Christ. Amen. Merci beaucoup.